qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola. Hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Vous avez déjà entendu le pop du bouchon sauter de ce pique-poule parce que Pascal Olivier a été impatient aujourd'hui. Et je comprends son impatience parce que cette émission est un peu exceptionnelle. On est accueilli chez l'ami Francis. Alors, on va l'appeler comme ça tout au long de cette émission, l'ami Francis.
Francis de la Payoff.
Francis, c'est un Montalbanais. Et Francis, il est client du marché des producteurs à Montauban.
Tous les samedis.
Le samedi matin.
Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai.
Sur le marché des producteurs, il y a un seul producteur d'huîtres. Dans l'enceinte du marché des producteurs. Il s'appelle Guy Compan. Il est ostréiculteur, agriculteur de la mer du côté de Marseillan, là-bas. Et c'est autour de lui qu'on est réunis ce soir avec Pascal Olivier. Bonjour Pascal.
Salut à tous.
Qu'est-ce que ce sera pour toi le programme aujourd'hui?
Oh, ben on va parler un petit peu de recettes autour de l'huître avec Alexandre Dumas et notre cher ami Courtine qui était le spécialiste, le chroniqueur gastronomique du monde. Bon, vous honorez le personnage, mais très très fine gueule.
Vous l'avez compris, c'est une spéciale huître, hein, Christophe. Bonjour.
On va parler, bonsoir tout le monde, on va parler d'une compilation de Paris DJ, on va écouter les Cassius et je vais vous faire une petite histoire de l'huître.
L'histoire de l'huître.
Oui,
wow.
Oui. Enfin, l'huître à travers les temps.
Bonjour Gaël.
Salut à tous. Ben, on va faire un petit mélange entre un petit peu de musique, d'huître et de bande dessinée.
D'accord.
Voilà, un joli mix.
Autour de l'huître,
toujours. Ah oui, toujours évidemment. Autour de l'huître.
Et comment tu fais, Georges, bonjour, pour être dans le sujet, toi, avec le jazz?
Bonjour, non, aujourd'hui, je vais parler d'un pianiste qui est vibraphoniste et organiste, c'est Mill Buckner, qui a eu l'occasion de jouer souvent à Montauban, soit au Paris, soit au théâtre, dans les années 70.
Il a adoré.
D'ailleurs, la maman de Pascal a assisté à plusieurs de ses concerts.
Tout à fait, même des concerts privés à côté d'ici. Voilà.
Et il adorait.
Et pendant ses concerts, il mangeait plein d'huîtres.
Voilà, j'aurais pu vous passer le Blue Oyster Cult aussi.
Ah, ça existe?
Ah oui, oui. Groupe de hard rock des années 75-80, le Blue Oyster Cult.
Alors, notre invité, c'est Guy Compan. On va lui donner largement la parole pendant cette émission. On va apprendre à découvrir bien son métier, qui il est.
Ses produits.
Et ses produits.
C'est
et puis,
produits.
Comment il les prépare aussi, parce que il nous fait le plaisir, finalement, et c'est pour ça aussi qu'on est chez Francis, il nous fait le plaisir d'utiliser les fourneaux de Francis pour pouvoir à la fois déguster des huîtres crues.
Crues, simplex.
Cuite aussi, on verra comment. Et même pané, on verra de quelle manière.
Né d'hier, mais jeune.
Alors, peut-être juste avant de commencer, on dit bonjour à Francis. Merci Francis de nous accueillir ici chez toi.
Ben, c'est un grand plaisir. Moi, j'ai connu Guy parce que tous les samedis matins, je vais au marché et j'adore les huîtres. Je suis un passionné d'huîtres et Guy m'a convaincu. J'adore sa personnalité, j'adore son produit et... Voilà.
Et donc c'est grâce aussi un peu à toi, hein, puisqu'on se connaît dans la vie. C'est grâce à toi qu'on est là avec Guy et qu'on fait cette rencontre. Bonjour Guy Compan.
Bonsoir. Je veux juste te dire quelque chose. Avec Francis, il arrive très tard sur le marché et des fois il a pas d'huître quand même.
Ah mais oui, il arrive. Il est midi et demi.
On a quand même un peu de chance d'être là réuni. Hein.
Ouais. Il faut dire qu'il habite loin du marché.
C'est vrai que parfois j'essaye de ne pas me coucher. Et alors là, j'ai le choix. Mais quand je me couche, c'est plus difficile.
Quand on ne s'est pas couché, une bonne douzaine d'huîtres avec un verre de blanc, un petit pique-poule de pinet, ça réveille.
Il y en a.
Et justement, il y en a ce soir. Alors bon, ben voilà, on est bien installés. Je propose qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on déguste. Ça commence comme ça. Et qu'on trinque, parce qu'on est quand même là pour ça aussi. Hein, allez.
Ah bah, alors, c'est les versions. On va charger
les cadeaux alors. Oui, c'est ça. Bah alors, donne. Qu'est-ce que c'est ça, Richner? Pique-poule. Tiens, Francis.
Peace of mind.
Les excellents Cassius qui sont en train d'enregistrer à l'heure actuelle leur quatrième album et ça promet tout un tas d'invités, un gros boulot sur le son. Ce duo français va encore nous épater et eux au moins ils se cachent pas derrière un masque de robot et ça c'est vraiment mieux que les autres Daft Punk. Cassius.
Alors, qu'est-ce qu'on déguste depuis la... Comment tu dis comment tu dis chez Francis?
La paillote de Francis.
Oui, ça va bien, ça sonne quand même. Avec Guy Compan. Guy Compan, donc, ostréiculteur, agriculteur de la mer, peut-être on va commencer par là, avant de faire l'histoire de l'huître, si tu veux bien, Pascal.
Ah oui.
On va commencer par qui est Guy Compan et comment il est devenu agriculteur de la mer, puisque j'ai l'impression que c'est ça, hein, le vrai terme.
On est les agriculteurs de la mer, oui.
Ouais.
Donc chez nous, il y a le choix, ou tu es dans le vin, ou tu es dans les huîtres. Donc j'avais les deux possibilités, mon père était dans le vin, ma mère dans les huîtres, et c'est plus l'eau qui m'a attiré, j'étais plus attiré par le liquide que le minéral, on va dire.
Ouais. Alors, chez toi, c'est Marseillan, hein. On est dans l'Hérault.
Au bord de l'étang de Thau, face à Sète.
Il y a du vent tout le temps.
Non, pas du tout.
en tout cas, du soleil tout le temps.
Voilà, il y a du vent, il y a du soleil, mais c'est très bien.
Ouais. Et donc, t'as baigné dedans depuis petit
Je suis né là-bas, ouais. Donc au bord de l'étang de Thau, et donc j'allais voir ma mère qui travaillait dans les huîtres. Donc je l'accompagnais, on y est.
Elle était elle-même.
Elle travaillait dedans, voilà.
D'accord.
Elle travaillait dedans. Donc après, chez nous, tu fais les saisons, tu fais les vendanges. Tu fais les saisons des huîtres quand t'as pas encore quand t'es pas installé. Donc tu essayes tout. Ça te permet de savoir ce qui risque de t'intéresser.
Et quand tu dis tu fais ça, parce que nous par exemple dans le coin, quand on est jeune pour se payer la mobilette, on fait les fruits.
C'est ça.
On n'a pas les huîtres, mais on fait les fruits. Donc dès 13 ans, 14 ans, on fait les fruits pour se payer la mobilette. Toi c'était cet âge-là aussi?
Oh, un petit peu plus tard, parce que bon, on est dans le sud, on est un peu plus feignant, mais on démarre, ça va être plutôt 17-18 ans, quoi, on va dire.
Ouais. On démarre plus tard.
Voilà. On sait que ça va être long et de plus en plus long, donc on se réserve, on s'économise un petit peu.
D'accord. Donc tes premiers...
Moi, je démarrais vers 16-17 ans, les premières saisons d'huîtres. Première saison d'huîtres, on démarrait là. Et je faisais les vendanges d'abord, 2 mois de vendange en cave. Tu finissais, t'attaquais les huîtres.
Et ça ressemble à quoi quand on fait une saison d'huîtres?
Une saison d'huîtres, quand tu es jeune et que tu démarres, tu soulèves du poids toute la journée et tu vas sur l'eau très tôt le matin. Donc tu t'en vas, c'est 4h, 5h le matin, chercher les huîtres. Tout ça, tu ramènes à l'établissement. Et là, tu as les dames qui arrivent en général, qui, elles, commencent avec leurs petites mains à travailler les huîtres doucement et à préparer. La journée se lance après, quoi. Au début, tu es 2-3 personnes sur l'eau. Et après, tout le monde se retrouve sur l'établissement.
Mais sur l'eau, moi, ça... excuse-moi, mais t'es dans ton monde et...
On a des bateaux.
Oui, non, mais c'est une espèce de barge assez plate, oui. Là. Donc, tu vas sur l'étang.
Sur les zones de production, donc on va récupérer nos huîtres. Bon, il y a plusieurs... T'as plusieurs tâches à faire. Pour la période de Noël, on va chercher les huîtres qui ont déjà été travaillées. Elles sont en poche. Elles sont prêtes à la consommation, comme ce soir-là.
Ah, mais elles sont dans l'eau, elles attendent...
Dans l'eau, oui. Ils vont mieux.
Mais parce qu'il y a un truc que je comprends pas.
Mais on les trouve sur un support quand même. Elles grandissent pas comme ça dans l'eau.
Donc, quand tu démarres, voilà, au départ, donc tu vas prendre une toute petite huître, un essaim qu'on appelle. Donc là, nous on le colle. La spécificité chez nous, on colle le essaim 3x3 sur une corde avec du ciment. Donc t'en mets deux, tu mets une corde.
Donc des huîtres miniatures. Tu les colles au ciment sur une corde.
C'est gros, ça fait 15 mm la grosseur d'un ongle. Donc tu le colles sur une corde avec ton ciment, tu laisses sécher toute la nuit.
C'est ciment de maçonnerie.
Ouais, c'est PJ35, tu prends. Tu laisses sécher toute la nuit. Et bon, et en même temps, tu lui donnes une position, la charnière.
Il faut de bétonnière.
Non, parce que c'est pas des grandes quantités.
Ça rentre pas dans la barge.
Laisse-le finir.
Donc, en même temps, la forme qu'on arrive à donner à ces huîtres-là, tu as la charnière qui est toujours vers le haut de l'eau et la partie pouce arrondie qui est vers le bas. Et une huître en poussant va chercher le soleil. Donc elle va se creuser. On arrive à voir la différence entre les huîtres méditerranéennes élevées sur corne et les huîtres de l'océan qui sont élevées sur poche. Où là on les retourne, où la forme n'est pas tout à fait la même.
Elles sont beaucoup moins courbes que ça.
Voilà. Ah oui, là, on le voit bien sur celle-ci là.
Ouais,
ça arrive à bien.
Tu veux dire que la forme de ton huître, qui est donc une forme assez creuse avec un chapeau très plat,
voilà.
Elle est sculptée volontairement en fait dans la façon de l'élever, quoi.
Tout à fait. Avant, on avait des huîtres, tu récupérais des huîtres mortes avec le naissin dessus, tu les enfilais dans une corde, et là, les huîtres poussaient n'importe comment. Donc, tu te retrouves avec les mêmes huîtres tordues, plates, qui s'en mêlait. Et bon, petit à petit, on est venu là-dessus et on arrive à avoir un beau produit.
D'accord. Alors là, on est déjà passé sur le produit, mais on n'a même pas parlé encore de comment tu es devenu agriculteur de la mer. Et pour ça, il faut qu'on boive un coup, quand même. Toujours parler tranquillement, mais les micros sont ouverts, mon cher Francis.
D'accord. Mon verre aussi.
Et elles sont un peu plus rondes que les huîtres de l'Atlantique.
De marraine.
Point de vue forme.
Alors, est-ce que c'est la même souche que les huîtres que l'on trouve dans l'Atlantique ?
Maintenant, sur l'Europe, il ne reste qu'une seule souche, c'est la japonaise. En fait, en 79, tu as eu une mortalité, il y avait la portugaise jusqu'à présent.
Et la portugaise s'est ensablée ?
Non.
Total.
La portugaise est...
Elle est morte.
Elle a disparu.
D'accord. Oh. Elle s'est pas ensablée. Non.
C'est peut-être justement le moment... Avant de poursuivre là-dessus, de faire l'histoire de l'huître.
L'histoire de l'huître. Tout de suite. Les huîtres sont connues dès la préhistoire, figurez-vous. Nos ancêtres, les rois des pique-niques, nous ont laissé comme preuve des monceaux de coquilles qu'on a retrouvés dans les sites qu'ils fréquentaient. Certaines datent même de 165 000 ans. Figure-toi, les premières qu'on a trouvées, c'était en Afrique du Sud. Pendant longtemps, ils les cueillirent au rythme des marées, mais ce sont les Chinois qui, les premiers, pensent à pratiquer le captage sur des pieux de bambou plantés dans le sol, dont les entailles portaient des coquilles comme support de fixation du naissin dont on parlait à l'instant.
Oui, des petites huîtres.
Donc ce sont un peu considérés comme les premiers collecteurs. Les premiers.
Ça, c'était à quelle époque ?
C'était il y a
très longtemps. C'était
chez les Chinois il y a longtemps.
Les Chinois, c'est vieux.
Au moins 2000 ans
comme civilisation.
Au moins 2000 ans, oui.
Les ça, c'était pas chinois.
Il y a quelque chose qui m'a étonné.
C'était pas chez Francis.
Les citoyens grecs se servaient de la partie plate de la coquille comme bulletin de vote.
Voter. D'où le terme ostracisme.
Voilà. Ils y gravaient le nom de l'homme politique qui souhaitait gicler de la cité pendant un certain temps. Ce qui donnera plus tard donc le terme ostracisme en français.
Ostra, lui. Voilà.
Ça vient d'Ostra.
On apprend quelque chose.
Alors là, qu'est-ce qu'on déguste ?
Émission culturelle.
Ah oui, c'est
bientôt sur France Culture.
Ouais.
Et Australie ? Non, l'Australie, non.
Au Moyen-Âge, la consommation des huîtres est paradoxale. Elle constitue à la fois un plat de pauvres pour les populations côtières, grâce à la cueillette sauvage, mais aussi elles sont consommées par les plus riches, les populations aisées des villes et la noblesse. Il n'y a pas de traces de production organisée à l'époque. Les huîtres sont acheminées depuis les régions de production, conservées dans la glace. C'est ensuite au XIXe siècle qu'on a commencé à élever les huîtres, telles qu'on les consomme à l'heure actuelle. Voilà.
Mais juste pour rajouter quelque chose, les Romains, parce que tu as oublié un petit peu, t'as zappé des Grecs au Moyen-Âge, les Romains qui étaient des fadas d'huîtres, parce qu'ils en mangeaient, mais des quantités infernales.
Ça les a menés,
D'abord, ils les mangeaient avec leur fameux garum, c'est-à-dire c'était une espèce de vinaigre de avec plein d'air, des choses comme ça, donc un petit peu dénaturé. Mais ils adoraient les avoir fraîches et ils les cultivaient chez eux. Là où ils étaient, et on a retrouvé. Alors, il y a une villa romaine, gallo-romaine, qui est à Montmorin, entre Toulouse mais vers les Pyrénées, où on a retrouvé des bassins dans lesquels il y avait encore des coquilles d'huîtres.
Ils amenaient
des huîtres vivantes avec de l'eau de mer, et ils les gardaient dans l'eau de mer pendant le temps qu'il fallait pour les manger. Et ils adoraient ça. C'était des fadas.
C'était les premières fines de clair, alors.
À peu près, tout à fait.
Mais j'ai l'impression que vous y connaissez, mon cher Guy Compan, quand même, dans l'histoire de l'huître, parce que je vous voyais un coup acquiescer.
Ça m'intéresse. Après, pas autant. J'y connais pas autant. Moi, ça démarre chez nous en 1800. 1870, d'accord. Je crois, sur les temps de taux.
Sur les temps de taux.
Ah ouais. D'ancettes. Au début, ils les ont fait d'ancettes. C'était des parcs flottants. Et ils se sont aperçus très vite qu'il fallait les sortir, parce que les gens étaient quand même malades. Il n'y avait pas les épurations comme maintenant. Donc, petit à petit, ils ont sorti les radeaux flottants. On les a mis devant 7, et après, bon, ça s'est structuré bien après, quoi.
D'accord. Ah, les devant 7, sur l'étang ou dans la mer ?
Non, dans l'étang.
Côté étang ?
Oui, oui. Sa mer, bon, ça bouge trop, donc c'était pas possible, quoi. Mais ça a démarré à l'intérieur, dans le port de 7.
Un petit peu de jazz, peut-être ? Ah, bah oui, là,
oui,
à chaque fois, je te surprends au mauvais moment. Il était en train de mettre une goutte de citron dans son huître.
Il faut dire que les huîtres sont tellement bonnes, c'est un vrai régal. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler de Mill Buckner. Mill Buckner est un pianiste, organiste, vibraphoniste et arrangeur de jazz. Bon, il a débuté dans les années 40 dans l'orchestre de Lionel Hampton, où il y restait 6 ans. Il a fait le fameux Hams Boogie Boogie que nous allons écouter. Il disait à propos de ce morceau, Lionel Hampton a eu l'argent de ce morceau et moi j'ai eu les applaudissements. Nous l'écoutons maintenant, c'est un superbe blues, un boogie, un boogie boogie.
À la tienne. Ça s'appelle Francis.
Pas Lionel Hampton, c'est Bill Buckner qui est dans Hams Boogie Boogie. C'est un disque qui a été enregistré en Allemagne en 68. Avec, sur ce disque, il y a deux batteurs. Il y a Joe Jones et Kenny Clarke. Et là, sur ce morceau, c'était Joe Jones qui était à la batterie.
Alors, on est en train de déguster des huîtres de chez Guy Compan, producteur d'huîtres à Marseillan, que vous retrouvez sur le marché des producteurs tous les samedis matins à Montauban. Guy, comment tu as démarré? Un coup, je te dis vous, un coup, je te dis tu, mais bon, ça dépend en fait où j'en suis avec
le Pinet.
Comment tu as démarré?
J'ai démarré.
À part, on a vu quand tu étais jeune, mais vraiment quand tu as monté ton.
J'ai fait des essais donc, d'abord agriculture et ostréiculture, et puis bon bonjour, c'est un beau frère qui est venu me voir, qui voulait monter une entreprise de coquillages. Lui était prêt à produire et il voulait que je vende. Donc on s'est renseigné, il fallait quand même faire une formation. Donc j'ai suivi la formation pour pouvoir quand même produire. J'ai produit, on s'est associé, ça n'a pas duré. Et bon, on s'est séparés et d'accord. Maintenant...
C'est facile de s'installer parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'ostréiculteurs pour peu d'espace sur cet étang de taux.
L'espace, il y en a encore. On arrive à le partager à tous, entre le tourisme, c'est bien divisé.
Bah, l'étang de taux, c'est quand même 75 km². Mm-hmm. C'est quand même très grand. Donc
c'est grand et les zones sont bien séparées. Et on s'est mis plusieurs fois autour de la table. Tout le monde, tous les gens qui sont concernés par l'État.
Mais toi, le jour où tu arrives et où tu dis, tiens, je veux faire ostréiculture...
Ça traînait déjà dans ma tête depuis un moment.
On est en quelle année, là?
Là, c'est 96.
D'accord.
96, donc j'étais plus tout jeune, on va dire.
Ouais.
Mais bon, c'était...
Et comment ça marche? On paye une concession? On achète...
D'abord, il faut avoir les diplômes. Tu ne peux pas t'installer comme ça. Et après, c'est des concessions. Tu es sur le domaine public maritime, donc on t'octroie un emplacement. Tu récupères des tables d'anciens producteurs, tu peux plus en rajouter.
Ah voilà,
c'est
l'idée.
Il me semble qu'il y a du monde gagner sur le truc.
Quand je me suis installé, on était à peu près 800 producteurs sur l'étang. Donc ça fait 10% de la production nationale. On était 800, maintenant on est tombé à 700 à peu près.
C'est parce que il y en a qui ont grossi.
Voilà, c'est comme dans toutes les professions, c'est pareil quoi.
À la fin, il en restera deux quoi. Le Pizza Hut de la.
Ça m'ennuierait d'être de l'huître. Un des deux quoi. S'il y aurait trop de boulot.
Il y aura d'un côté Pizza Hut et McDo de l'huître.
Par Bourriège et Compan.
Mais ta Bourriège, c'est le plus gros sur l'étang. Voilà. Ouais. C'est le plus gros qui fait des beaux produits aussi. Quoi. Qui renouvelle un petit peu la profession.
ça se compte en hectares, ça se compte comment, toi, ce que tu as ?
Nous, c'est des tables. C'est des, une table, ça fait 12 mètres sur 50 mètres. Donc, ça se calcule aussi. Et j'en ai, moi, j'en ai 4. 4 pour l'instant. Et mon fils arrive maintenant, donc bientôt là. La relève est assurée, vous aurez des huîtres pendant très longtemps, je pense, à Montauban.
D'accord. Ah
ben ça, c'est important.
Oui. Et je pense, oui, il fallait le dire. Hein.
J'en produis combien d'huîtres par table ?
Une table, tu fais 4-5 tonnes.
D'accord. C'est-à-dire une table, c'est parce qu'on les pose dessus ou...
Ça s'appelle comme ça, quoi. C'est... T'as des piquets et c'est suspendu, nous. Nous, on se raccroche avec des cordes, tu passes dessous avec le bateau, t'as des piquets plantés dans l'eau, et dessus, tu croises et tu fais des... t'as des rails. T'as des rails qui dépassent à 1,50 m de l'eau. Donc tu passes avec ton bateau dessous et tu accroches tes, tes cordes qui sont en suspension.
Avec les huîtres collées au ciment. Ouais.
Tu les colles la veille, séchées, et le lendemain matin, tu vas les poser. Et tu attends un an. Là, les huîtres qu'on déguste ce soir, elles ont un an.
Et là, elles grossissent. Elles sont collées par le ciment, voilà. Et elles grossissent.
Elles grossissent, elles grandissent, elles grossissent, elles s'épaississent.
Qu'est-ce que ça mange, une huître ?
Du plancton. On a essayé autre chose, mais bon, ça ne mange pas. Donc le plancton, ça va très bien. Et au niveau du goût, c'est pas mal.
Et donc, ça filtre l'eau ?
Ça filtre l'eau, toute la bombe. Quand il y a vraiment du vent, quand c'est remué, ça ne filtre pas. Quand elles sont en suspension, on peut plonger, on les regarde, elles sont ouvertes. Et il y a des... tout le bord noir, le bord de l'huître, hein, il y a des petits cils qui amènent en fait de la nourriture vers, le... vers l'estomac, on va dire. Mmh. Donc, tu as tout le plancton qui est amené, donc elle digère. Et en fonction des saisons, le plancton n'est pas le même. Ça va être comme dans... sur la terre, tu as la période des asperges, la période du poireau, donc... En fonction de la luminosité, du froid, tu n'as pas le même plancton. Donc le goût évolue dans l'année à cause de ça.
Mais la plupart du temps, elles sont plongées dans l'eau
ou... Chez nous, elles sont tout le temps dans l'eau.
Tout le temps dans l'eau. Tout le temps.
C'est pour ça qu'elles poussent un petit peu plus vite.
D'accord.
Sauf M. Tarbourriège, qui a trouvé une idée géniale, c'est-à-dire qu'il les relève.
Ils ont l'idée, les anciens le faisaient déjà, ils les montaient et les faisaient sécher. Mais bon, le faire manuellement tous les jours, c'est impossible.
Oui, mais ça, c'est ce qui se passe avec les marées à l'océan, quoi. Mais il y a voilà, pas,
ça
y a
se
pas
fait
de
naturellement.
Ouais.
Ça
voilà. Se fait naturellement. Il a automatisé donc, ça.
Il avait sur l'étable qu'on a. En fait, nous, on le faisait déjà certains manuellement. Lui, il a mis panneau solaire, moteur, et il élève tous les jours.
D'accord.
Tous les jours. Bon, il fait une huître magnifique.
Ce qui permet d'avoir une huître plus grosse, plus charnue.
Donc, ça la fait croître
pied,
plus vite.
En fait, t'as le pied et le muscle. Il fait travailler le muscle. Déjà, ça grossit beaucoup plus. Qu'une huître normale.
Donc elles sont dures à ouvrir ?
Voilà, très très dures par contre, c'est des pieds. Hein. Mmh. Celui qui ne sait pas ouvrir, il ne faut pas qu'il en achète. Hein. Mmh. Et c'est une huître beaucoup plus ferme, mais qui est plus longue.
Gilles Goujon à Fongonjous, qui est un 3 étoiles français, lui, il les ouvre à la vapeur.
Ah oui, mais ça, justement, on va le voir, puisque il nous a montré.
Pour les manger crus ensuite ou...
Pour les manger crus ensuite.
Ah, je ne connais pas.
Mais il les ouvre juste à la vapeur.
Ouais.
Ah d'accord, parce que tout à l'heure, j'ai assisté justement à l'ouverture des huîtres.
Mais il les sert en gelée.
Par Guy.
Il les sert en gelée.
Oui,
ça risque pas de les cuire un peu en les faisant la...
On parlera de l'huître dans la gastronomie un tout petit
tout
peu
l'heure.
Plus tard.
Oh,
moi,
ouais.
Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu à l'entreprise Guy Compan. C'est gros, il y a combien de salariés ? Vous êtes seul ? Vous avez des employés ?
J'ai démarré seul et là maintenant on est 4. On est 4 sur la période septembre-avril, qui est la grosse période. Après, on peut travailler aussi l'été. Je pense qu'avec l'arrivée de mon fils, malheureusement, je vais être obligé de travailler l'été aussi.
Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le matin, tu te lèves à quelle heure ? Parce que tu viens samedi matin, la vente des huîtres. Mais j'imagine que tu fais, t'as d'autres points de vente.
J'en ai pas beaucoup, parce que bon, il faut quand même les produire. Donc on a la chance, on a deux métiers en fait dans un. Lundi, mardi, mercredi, tu produis, c'est assez rustique. Tu es sur l'eau, tu es mouillé, donc c'est un métier qu'il faut aimer. Et après, le vendredi, samedi, tu es sur les marchés.
Même s'il pleut, tu es sur l'eau ?
Oui, c'est pas gênant ça. Il y a de l'eau partout.
Il pleut jamais à Marseille en plus.
Pas souvent.
Donc lundi, mardi, tu es sur l'eau.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu es à l'établissement à préparer tout ce qu'il y a à faire. Et le vendredi, je suis à Foix pour marcher de Foix. Et le samedi, je suis ici. Et après, j'ai une expédition à l'étranger en Allemagne.
Mais quand tu les sors de l'étang de tôt, tu les sors de l'eau, tu les mets sur ta barge, hop, t'arrives, hop, et qu'est-ce qui se passe là ? Tu les tries un peu comme...
Un an après, donc, les avoir mis dans l'eau. On les sort, on a une machine qui les sépare de la corde.
T'as rien à faire pendant un an. Hein.
Pendant un an, on les laisse.
De temps en temps,
on les regarde, on les surveille, on leur parle un petit peu.
Ouais.
Pour leur dire, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc au bout d'un an, tu les récupères et là, tu les calibres. En fait, tu vas les mettre par taille. Par taille.
D'accord.
Tu les laves.
Ça, c'est à la main.
Ça, c'est à la main, oui. Chez nous.
Et à l'œil.
Tu peux avoir des machines.
À l'œil ou à la main.
Voilà, c'est à la main. En fonction de la taille. En dessous de la main, au-dessus. Bon.
Quel travail.
C'est une habitude, quoi.
D'accord.
Ça se fait.
Et là, tu les mets où ? Tu les remets sur des cordes ?
Là, on les remet en pochon. Donc, quand tu vas les travailler, tu vas les casser un petit peu. Donc, tu les nettoies et tu les remets dans des pochons par 13 kilos à peu près. Tu remets dans l'eau minimum 15 jours en fonction de la saison. L'huître, il faut qu'elle se répare d'abord. Tu l'as abîmée quand tu l'as sortie, donc elle va se réparer. Et une fois qu'elle est réparée, l'huître va manger. D'abord, elle répare sa maison, un petit peu comme nous, on répare la maison. Elle mange, elle grossit. Une fois qu'elle touche un peu de partout, qu'elle n'a plus de place, elle va redécider de pousser. Et c'est à ce moment-là qu'il faut la vendre. Et en fonction des saisons, il y a des fois ça va durer une semaine, des fois trois semaines, des fois un mois. Donc c'est au moment où elle repousse qu'il te faut l'amener sur le marché.
Et si on la remet à pousser, elle fait quoi? Elle fait.
Elle continue.
Elle fait de la coquille.
Voilà, elle continue et elle pousse à mesure.
Ça vit combien de temps, une huître?
Je sais pas, je n'ai pas connu.
Si on la mange pas, ça dure un an, deux ans
Oh, plus, oui.
Plus. Blablabla.
Moi, j'en ai jamais vu en maison de retraite.
Non, pas
moi
encore,
non plus, hein. Non. Édenté.
Qu'est-ce qu'on déguste? Des huîtres. Avec qui? Guy Compan. Chez qui? Chez l'ami Francis. Avec qui? Avec l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. On va parler quand même du goût de ces huîtres qu'on vient de déguster. Il en reste une dans le plat. Une. Ah ben,
c'est
parti.
Moi aussi.
On a compté, il en a mangé 22 depuis le début de l'émission. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, si vous prenez le train en marche, sachez que ce Qu'est-ce qu'on déguste est exceptionnel en le sens où on est délocalisé. On est chez l'ami Francis. Je l'ai dit au début de cette émission.
Chez Francis.
Francis, il est montalbanais. Il fait ses courses sur le marché des producteurs le samedi matin à Montauban. Et sur ce marché des producteurs, il y a Guy Compan qui est ostréiculteur. Un des seuls producteurs à être sur l'enceinte du marché des producteurs du samedi matin. Et donc lui,
le seul et l'unique.
Oui, en fait, à cet endroit-là, oui, parce qu'il y en a avant de rentrer sur le seuil du marché des producteurs, avant la pancarte marché des producteurs. Mais à l'intérieur, il est le seul, effectivement. Il est à Marseillan. Ses huîtres sont élevées sur l'étang de Thau. Et celles qu'on déguste ce soir, là, par exemple, elles ont un an. Il nous l'a dit tout à l'heure. J'aimerais, Guy. Si tu veux bien que tu nous parles de la spécificité gustative de l'huître de l'étang de Thau. Est-ce qu'on peut dire que tes huîtres, là, celles qu'on déguste, est-ce que ce sont des bousigues ou pas?
Oui, c'est l'appellation bousigue. Ah. Donc l'étang de Thau, c'est toutes les huîtres qui sont produites là-bas, c'est l'appellation bousigue. Après, bon, il va y avoir bousigue marseillan, meze, qui est différent. C'est comme le vin un petit peu. Sur l'étang de Thau, sur l'huître de bousigue, chaque... coin de l'étang va être différent au niveau du goût, au niveau de la coquille, au niveau du goût, parce que tu vas pas avoir les mêmes sels minéraux, la même profondeur, tu n'auras pas le même plancton. Donc c'est la même huître, mais qui est un tout petit peu différente pour les connaisseurs. Quoi.
Entre Bousigues et Marseillan, il y a combien de kilomètres?
Il y a une vingtaine de kilomètres. Quoi.
20 kilomètres. Ouais, 15. Et en 20 kilomètres, on a un terroir différent pour
tout
les
à fait. Oui. Et déjà au niveau de la profondeur de l'étang, chez nous on est à 6-7 mètres de profondeur, sur Bousigues ils vont avoir 12 mètres. Donc l'apport en eau douce, l'apport en sel minéraux n'est pas le même aux deux endroits. Le plancton va se développer plus dans les parties hautes des couches d'eau. Donc il y a un petit peu plus de plancton par chez nous. Donc on les trouve un petit peu meilleurs sur l'étang de Thau marseillais.
D'accord.
Mais les autres sont bonnes aussi, ne vous inquiétez pas.
Oui, mais les autres elles sont bonnes. Mais est-ce que c'est des huîtres d'étang? Mais les autres sont autres temps?
Oh oui, bravo. Oui, oui.
Autre étang.
Oui, ça va pas être facile. Oui.
Oh, c'est pas mal quand même.
Merci Francine. Non, mais en même temps, on est chez toi. C'est toi qui nous accueille. Donc, t'as le droit aussi de faire de la bonne blague.
Une fois, hein, pas deux.
Donc, souvent on dit l'huître de la Méditerranée ou celle de l'étang de Thau particulièrement. Elle est plus salée. On le ressent là. Hein, on est en train d'en déguster. Allez, je vais m'en faire une autre.
Et c'est son produit, l'iode, c'est sa caractéristique.
Voilà.
C'est une huître de pleine mer, donc il va être plus iodé. Après, on peut comparer avec la marraine, où eux, les passent en clair, ils mélangent eau douce, eau salée. La salinité chez nous varie aussi dans l'année. Donc en fin de saison d'été, où il a fait très chaud, avec du vent, l'eau s'est évaporée, donc il y a une concentration de sel. On se retrouve à 56 grammes de sel par litre d'eau, ce qui est, bon, ça ne vous dit rien, mais c'est énorme. Ouais. À l'heure actuelle, on est à 28, c'est-à-dire la moitié.
Parce que l'étang de Thau, c'est un joyeux mélange entre l'eau de mer, l'eau du canal latéral, enfin, le canal du Midi, de l'eau de ruissellement et des sources.
C'est l'Hérault. Le canal du Midi, lui, se jette avant. On va dire l'eau qui arrive d'ici, de Toulouse, se jette avant, va dans la mer. on est bien content. C'est juste l'eau de l'Hérault qui finit le dernier bras, donc c'est de l'eau de rivière qui arrive chez nous. Et après les eaux de pluie, et il y a les résurgences.
Et les résurgences. Donc c'est un joyeux mélange, c'est presque une eau saumâtre, c'est pas une eau de mer, c'est pas une eau douce.
C'est un mélange, mais c'est une eau de mer qui est plus salée.
Parce que c'est un bassin fermé qui concentre.
L'étang va être plus salé que la Méditerranée, qui va être plus salé que l'océan.
Que l'océan, voilà. Tout à fait.
Puis il y a ce goût de noisette aussi qui est.
Qui est magnifique. C'est la particularité des huîtres de Guy Compens, c'est ce goût de noisette que l'on retrouve pratiquement toute l'année, avec des pointes souvent plus. Souvent, quand c'est de noisette, c'est très noisette. Et c'est un goût vraiment qui. Moi, ça m'a. Je ne mange plus de marraine depuis que je connais ces huîtres-là.
Mais donc, c'est une habitude du palais, on va dire. Les gens qui sont habitués à la marraine, qui sont habitués à une qualité d'huître, ont du mal à changer. Quand on est habitué à ces huîtres-là qui sont un petit peu plus iodées, une huître qui va être plus douce, on va la trouver fade. Mais elle n'est pas fade, c'est une autre qualité d'huître, on va dire.
Alors, ça va se rapprocher des huîtres selon les moments de l'année. Pardon,
vas-y.
Elles sont plus ou moins grasses.
Oui. Charnues.
Charnues, oui, ne pas confondre avec laiteuses. Hein. Voilà. C'est pas la même chose. Est-ce que tu peux expliquer ça?
En fait, quand tu as t'as le cycle de l'huître, au printemps, là, quand on va finir la saison en avril, les huîtres vont devenir laiteuses. Donc, elles sont matures, elles arrivent à.
Alors, elles sont laiteuses parce qu'elles vont se reproduire.
Pour la reproduction. Donc, arrive chez nous, c'est un peu plus tôt que sur l'océan, s'il fait un peu plus chaud. Donc, plus il fait chaud, comme pour tout être humain au printemps, ça va beaucoup mieux.
Ça pousse.
Voilà, ça pousse. Là, c'est pareil. Donc, tu as les huîtres qui sont laiteuses. Premier choc thermique, un orage, un coup de chaud, un coup de froid, elles vont lâcher le lait. Donc, elles lâchent le lait, ça se mélange, les huîtres mâles, les huîtres femelles, ça devient des petites larves qui vont nager. Bon, et après, elles vont se fixer. L'huître, quand elle a pondu, elle est toute maigre. Donc là, une huître, c'est une peau. On se demande même comment c'est vivant. Et là, bon, c'est pas très bon, on va dire. C'est pas très bon. Et après, à partir de là, une fois qu'elle a lâché son lait, elle se remplit petit à petit. Donc elle rentre dans la saison septembre, octobre, novembre, décembre. Et le meilleur moment, c'est quand même maintenant. C'est décembre, janvier, février. C'est là où l'huître, est, au niveau du goût, est mature. Et on arrive à avoir un super produit, quoi.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Guy Compens, producteur d'huîtres à Marseillan, que vous retrouvez sur le marché à Montauban tous les samedis matins. Un petit peu de musique au milieu de tout
ça. Oui, on va écouter un extrait de la dernière compile réalisée par le collectif Paris DJ qui se sont consacrés là au hip-hop psyché. On va retrouver Toufless qui s'appelle en fait Ibrahim Ferras, qui est d'origine soudanaise. Il sort ce morceau For the People sur cette sélection d'exception que vous pouvez télécharger sur le site parisdj.com. C'est du son excellent. On écoute tout de suite Toufless.
One, two, three, hit it!
System was problems and questions. We speak so it's time for you to listen. The ever-licking youth are in deep street conditions. Rebels on the mission, raised by traditions. Screaming for their rights and their freedom of expression. The pressure is on now when the smoke screens are burning. Mind over matter, we keep moving for the purpose. Oh my people, where you at? Let me see you break the surface. It's more than these prices that they put up on our purchase. It's more than these lights that they cut up from our service. It's all about the lies and what goes behind the curtains. Yeah, for my people who had it to the limit. Salute to what new Mario and everybody in this. See, I'd like to be a human and say it like it is, rather than being a puppet and just follow what it is.
See the moon goes up, then the sun comes down.
And yo, we're always comes around.
Toothless, extrait de cette dernière compil digitale réalisée par le collectif Paris DJ, et je remercie DJ Jules avec qui je suis en contact et qui m'envoie toutes les nouveautés de Paris DJ, et c'est la crème du son hip-hop à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qu'on déguste spécial huître avec Guy Compan, que vous retrouvez tous les samedis à Montauban, sur le marché des producteurs, l'huître.
Faut pas y aller trop tard parce qu'après il y en a plus.
On en a parlé avec, grâce à Christophe, sur son histoire. On parle de son élaboration avec Guy Compan, mais dans l'assiette, mon cher ami.
Dans l'assiette, y a toujours l'éternel débat. Doit-on les manger crus? Doit-on les manger cuites? Alors on peut les manger crus avec certains ingrédients, vinaigre, citron, échalotes.
On peut s'y rien mettre, ouais, pour les respecter, ouais, dans leur intégrité.
Voilà, le mieux, moi je trouve, je suis fervent adepte de cette école-là, c'est rien.
Est-ce qu'on met du citron?
Le produit, rien que le produit.
J'ai une question. Est-ce qu'on met du citron ou du vinaigre par peur des microbes?
Non. Non.
Déjà, mettez le citron pour voir si.
Si elle était vivante,
si elle était vivant, ou pas. Voilà. Mais après, ils ont pris le goût, ils ont.
Si elle était vivante,
ça leur a plu. Et quand on fait vinaigre, nous, vinaigre et échalote, ça se fait souvent, on coupe un petit peu avec du vin blanc, sinon le vinaigre, c'est trop fort. Et t'as plus le goût de l'huître.
T'as plus le goût
de
l'huître.
Donc tu fais vinaigre, vin blanc, échalote, tu le fais la veille avec juste un peu de poivre, tu arrives à mettre un petit peu. Sans mettre une cuillère pleine, quoi. Alors, que du vinaigre, c'est trop fort.
Oui, je fais vinaigre d'échalote et moitié eau de l'huître.
Ou l'eau de l'huître aussi, oui, on peut. Mais le vin blanc, c'est pas mal.
Donc plusieurs écoles, donc cru sans rien, cru avec du citron, cru avec citron échalote, vinaigre échalote, vin blanc, eau de l'huître, etc. Et après il y a toute une école huître cuite. Alors c'est vrai que moi j'ai jamais trop apprécié l'huître cuite jusqu'à, je crois que ça doit être l'année dernière. Je me suis amusé à faire quelques huîtres avec un petit peu d'échalote, un vinaigre balsamique blanc et cuite. Non pas au four, mais directement sur le barbecue. Et là, j'ai découvert quelque chose, vraiment un nouveau goût de l'huître, juste avec un petit peu de feu de bois, très peu de vinaigre balsamique et légèrement sucré, un petit peu d'échalote. Ah ben Georges, ça y est, je pense que c'est chaud. Oui, parce que là, on est en train de manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange?
On attaque des huîtres chaudes.
Gratinées
au four. Guy, une question.
C'est des huîtres gratinées, oui. Donc, c'est jambon, champignons, crème fraîche. Une pointe d'ail, pas trop. Sinon, ça casse le goût de l'huître. On remplace l'eau par le vin blanc, qui est quand même meilleur. Et juste du fromage par-dessus. Ça, on le met dans un four chaud avec le grill. Et c'est une très bonne recette.
Ça veut dire que tu jettes l'eau de l'huître et tu mets un peu de vin blanc à la place.
C'est quand même meilleur. Hein.
Carrément.
Ça me semble un bon petit pic-poule
là-dessus. C'est de la perversion, ça.
Non, mais bon, ça se marie bien.
Oh, c'est assez fin. Alors, on sent bien le goût de l'huître quand même derrière.
On le garde.
Très bon.
Mais là, la préparation était très bien. C'est Daniel, mon arpète, on va dire.
Ouais. Ton gaffette.
Qui a bien bossé, qui a bien reproduit la recette.
Donc on peut avoir le même dans les huîtres gratinées. Il y a une série de recettes comme ça qui peuvent être avec des huîtres creuses ou des huîtres plates. Ici j'ai une recette d'huîtres chaudes au gratin avec des belons et des six beaux belons. Alors maintenant au prix des belons qui valent un peu plus, même plus cher que les tarbourièches, c'est-à-dire doivent valoir dans les 5 euros le 5 euros presque l'huître, les grosses
belons.
Le
prix de la tarbourièche.
Elles ont pris le belon.
Oui, elles ont pris le belon.
Faire des huîtres gratinées avec du champagne, avec du vin blanc, avec différents. Ah, il y en a un qui a pris le gratinage de l'autre hein, ici dans le plat. On peut avoir aussi, tiens, j'ai découvert une recette qui est pas mal, c'est une daube d'huître et de Saint-Jacques, une daube qui est faite avec du vin rouge et qui est avec du Croz Hermitage. Donc il faudra que j'essaye de faire ça. Bon, je vais pas vous lire la recette parce qu'elle est quand même assez longue, mais huître et Saint-Jacques, ça se mélange pas mal. Il faut rester dans la finesse. Ce sont des produits qui sont très très fins, qui ont des saveurs vraiment à la fois de noisettes, de d'iode, mais très fines. Donc les casser avec des arômes trop forts, ça va pas être bon. Donc il faut y aller vraiment léger. Il faut aimer ça et puis il faut en manger des douzaines.
Ah oui, pour moi, l'huître chaude, ça me fait penser, c'est Francis, là, le profane, l'homme qui fait son marché tous les matins.
L'autre.
Pour moi, l'huître chaude, la première fois que j'en ai goûté, c'était comme les bananes chaudes. C'est-à-dire que pour moi, le goût, il est exalté. Voilà. Et dans l'huître chaude, on a l'iode, ce sel, et c'est vraiment, je redis le mot parce que j'en ai pas un autre, c'est exalté.
Il faut qu'elle soit charnue quand même, hein, pour que ça marche.
Oui, sinon on retrouve.
Sinon, on a l'impression d'avoir rien, quoi. Rien du tout. Hein, voilà. Et il faut pas que ça cuise très longtemps, parce qu'il faut que ce soit, qu'on retrouve presque la fraîcheur.
Alors, si on les fait pocher, il faut vraiment les faire pocher, quasiment une minute, deux minutes, non pas dans leur jus ou dans un autre jus bouillant, mais un jus que l'on a fait bouillir, que l'on a arrêté, et on les met une minute dans ce jus chaud, donc à 98 degrés, mais surtout on les fait pas bouillir parce que ça devient caoutchouteux. On les poche.
Il faut que ça reste ferme. Exactement, caoutchouteux, moi ça me faisait penser comme à la cuisson de la sèche. Tout est subtil.
Tout à fait.
La sèche trop cuite, c'est caoutchouteux. Et c'est vraiment très subtil, mais quel bonheur.
Quel bonheur. Après, Guy évoquait aussi tout à l'heure la différence avec celle du bassin de Marraine. Et moi, ayant été élevé près de l'île d'Oléron, il y a une autre. Ça se voit sur mon physique un petit peu. Je sais, j'ai encore un peu de vert sur le. Il y a une autre technique qui est les glades, donc où elles sont cuites dans des aiguilles de pin.
Ça, c'est les moules.
Comme les moules.
C'est les moules. Ils le font. Les glades et la mouclade, oui.
Et ils le font avec les huîtres aussi.
Je sais pas. J'ai jamais eu les huîtres parce que ça doit comme c'est beaucoup plus loin.
J'ai commencé à les goûter comme ça, et c'est vrai que on peut passer de l'une à l'autre, oui. Mais c'est beaucoup plus fin cru cuit. On perd quand même une saveur.
C'est meilleur cru. Mais après, bon, pour amener des gens justement à les manger crus, ceux qui ont du mal à manger un animal vivant, donc pour leur faire goûter, on démarre avec des cuites, et après petit à petit, les gens arrivent à venir sur des crus.
Après, les très grosses huîtres, bien souvent, elles vont être meilleures. Enfin, voilà, elles vont être plus faciles à manger quand elles sont cuites, quoi, au four, quoi. Hein,
nous, souvent, on fait une huître par personne.
Une numéro un, là, une très grosse.
Où tu fais plusieurs préparations, et ça te fait une belle entrée, quoi.
Et puis, c'est culturel, parce que. Ici, on mange des huîtres crues, mais aux États-Unis, jamais, 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 tu vas trouver une huître crue.
Ni en Afrique. En Afrique, ils les cuisent obligatoirement.
En même temps, faut être assez con pour prendre l'avion pour aller bouffer des huîtres aux États-Unis. Enfin, je veux pas.
Oui, mais enfin, des fois, ça arrive.
J'ai peut-être raté un épisode, mais t'as donné la recette de ça?
Oui.
Bon, alors j'avais raté un épisode.
Les ingrédients.
Alors, pourquoi le prix de l'huître a-t-il explosé, Guy Compan, s'il vous plaît?
Explosé.
Il y a des moments où on ne peut même plus acheter de l'huître, c'est trop cher.
Le produit s'était démocratisé 10-15 ans en arrière. Tout le monde pouvait en manger, on va dire, plus facilement. Et après, on a eu un petit souci de mortalité, en fait, sur le naissin. Donc, ça s'est produit sur toute l'Europe. Et donc, il y a eu un manque de produits. Qui encore, on l'a encore. Nous, on arrive à le compenser.
Est-ce que c'est un manque de produits un peu fabriqué par...
Non, du tout.
Bon,
on en rajoute toujours un petit peu.
Le lobby, la corporation des ostréiculteurs. Parce qu'on a l'impression quand même que des huîtres, on en a constamment, mais à des prix insupportables.
Il en manque beaucoup.
Par rapport au prix que tu arrives à compenser, tu t'appelles Guy Compan. Est-ce que Compan et compensé, ça vient de là? Parce que moi, des huîtres, par rapport à d'autres endroits qui est, tout le monde doit vivre à Montauban et tout est bien à Montauban, mais quand même, tes huîtres, par rapport à la qualité, moi, je trouve ça superbe.
Disons, pour l'instant, on arrive à tenir ce prix-là. J'en profite pour septembre. On aura une petite surprise, je pense. Mais il y a un manque d'huîtres. C'est effectif. Il y a personne qui triche.
C'est quoi cette histoire de mortalité là? Il y aurait une maladie.
C'est le butinécène. Non, il y a un virus qui est dans le milieu depuis très longtemps. Et à l'heure actuelle, ça fait 4-5 ans où l'huître le supporte moins bien. Donc là, on a commencé à trouver des parades. Un virus, c'est une maladie. Là, on est nombreux autour de la table. S'il y en a un qui est malade, on va tous l'attraper. Donc il y avait forte concentration d'élevage, élevage intensif. Donc on commence à réétaler. Sur les tambres, on a cette chance où il y a moins de population d'huîtres. Donc on espace un petit peu plus, on étale et on dirait que ça va un petit peu mieux. Un petit peu mieux chez nous. Après, les collègues, je ne sais pas.
Alors, ce qui est très rigolo à voir, c'est que...
Avec les temps...
Là, nous avons un bouquin d'Alexandre Dumas qui écrit dans les années 1873 ou 14 que les huîtres se raréfient, donc que les prix montent. J'ai ici un autre bouquin qui date de 1984. Donc notre cher Robert Courtine, le critique gastronomique du Monde, qui dit, en 1984, les huîtres, on n'en trouve plus, les prix explosent. Donc... Oui.
Moi, je pense qu'il y a une sorte de corporation d'ostréiculteurs qui, s'est entendu, ils font des réunions à 23 heures dans des caves sombres, tu vois, ou sur des barges au milieu de l'étang de Taux pour que personne ne les entende.
On va
lire qu'il y a des bactéries. Et comme ça, l'huître, au lieu de la vendre à 3 euros la douzaine, comme c'était le cas il y a quelques années, eh ben, elle est aujourd'hui à 9, 10, 11 euros, parfois 12 euros la douzaine, sans aucun scrupule, quoi.
J'aimerais bien les vendre à 12 euros, mais.
Olivier, avec tous tes bouquins, tu me trouves toujours avec les huîtres, les perles.
Ça fait 2 ans où elles sont très chères. Il y a des années où c'est inabordable. Ouais. Inabordable. Après, il y a peut-être une surconsommation. Il y a beaucoup plus de gens qui en mangent, donc on en trouve moins aussi. Et quand le produit est rare, il augmente. Et bon, tous ceux qui vendent les huîtres très chères, ça va pas être les producteurs, ça va être tout ce qui est revendeur. Et oui, tous les poissonniers
à Paris, c'est devenu n'importe quoi.
On les a traités de voleurs, nous, quand on y va.
Dans les brasseries parisiennes, si tu essayes d'aller manger une douzaine d'huîtres, c'est impossible parce que c'est 24 euros les 6 huîtres maintenant avec un verre d'un mauvais muscadet, quoi. Ça devient n'importe quoi.
Mais tous les ans, on monte avec les producteurs au salon de l'agriculture pour décerner les médailles, donc comme dans le vin ou autre. On fait partie du jury tous les ans et on passe régulièrement devant des écaillés et chaque fois on est plusieurs producteurs, on s'y arrête, on finit qu'on se dispute avec les gens, qu'on les traite de voleurs.
Mais c'est parce que oui,
on sait le prix.
C'est parce que vous leur vendez cher ou c'est parce qu'ils font une marge monumentale.
Je les leur vends moins cher à Paris, j'en vends. Je les leur vends moins cher que sur Montauban. Ah oui, parce qu'ils font une marge. Parce
qu'on aurait pu
dire à Paris, c'est moins cher qu'ici.
On aurait pu se dire qu'il y avait une justification par rapport au transport.
Non, le transport, il n'y a aucune justification. Le transport, il n'est pas cher, le transport.
D'accord.
Je vais aller les acheter à Paris, vos huîtres.
Pourquoi pas.
Non, mais alors, mine de rien, celle qu'on est en train de manger, c'est quoi? C'est de la numéro 4, 3 ?
C'est de la 4. C'est de la 4. La jolie 4, quoi.
Alors elle coûte combien, la 4, samedi matin?
En début de matinée, 5 euros, et fin de matinée, 5 euros.
Oui, d'accord. Mais vraiment, le début d'après-midi, il n'y en a plus.
Enfin, le profane du marché, Francis, est-ce que tu pourrais nous rappeler comment ça marche, le numéro? C'est 1, c'est les plus gros, 5,
eux, c'est 1, c'est les plus grosses, et la 4 et la 5 sont les plus petites. C'est inversé, le chiffre
d'accord.
est inversé.
Et en coût, ça va, la 1 est plus chère que la...
Oui. Parce que je les vends à la douzaine. Les collègues, sur nous, quand vous êtes sur les bassins de production, ils les vendent au kilo. Donc,
la grosse... Il y en a combien au kilo?
Sur une numéro 3, c'est 12. Et après, d'accord. Donc, si elle est plus petite, il y en a 16. Ouais. La moyenne, tu vas en avoir 10. Et la numéro 1, tu vas en avoir 6. 6, 8.
Enfin, plus personne... Enfin, ça ne s'achète plus au kilo, c'est à la douzaine.
Si. Tu vas dans les supermarchés maintenant, c'est au kilo. Parce que justement, ils les achètent. Et pour ne pas avoir de pertes, ils les revendent...
Mais ils en vendent dans les supermarchés, de suite.
Ils essaient, oui, de moins en moins.
Guy, si on peut comprendre le prix des huîtres, excuse-moi de mon profanisme.
Il faut qu'on vive aussi.
Je ne sais pas si le mot existe. Mais plus c'est gros, plus c'est cher.
À la douzaine, oui.
C'est l'inverse des femmes.
Je ne sais pas, j'en ai qu'une.
Bravo. C'est l'effet pitbull.
L'huître est un des mollusques les plus déshérités de la nature. Étant céphale, c'est-à-dire n'ayant pas de tête, elle n'a ni l'organe de la vue, ni l'organe de l'ouïe, ni l'organe de l'odorat. Son sang est incolore. Son corps adhère à deux valves de sa coquille par un muscle puissant, à l'aide duquel elle l'ouvre et le ferme. Elle n'a pas non plus d'organe de locomotion. Son seul exercice est de dormir. Et son seul plaisir est de manger. Comme l'huître ne peut aller chercher sa nourriture vient elle-même la trouver. Ou lui est apportée par les mouvements des eaux. Elle se compose de matière animale en suspension dans l'eau. En 1816, M. Bedan a prouvé qu'on pouvait amener graduellement les huîtres à vivre dans l'eau des fleuves. Extrait de mon dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, collection 10-18.
1876, je crois, quelque chose comme ça.
Magnifique. En tout cas, moi, à l'armée, j'ai fait souvent le planton, mais je me suis jamais fait bouffer par une huître.
Qu'est-ce qu'on déguste spécial huître chez l'ami Francis, les blagues vaseuses, c'est lui. Guy Compan, l'ostréiculteur, agriculteur de la mer, c'est lui. Il nous fait déguster des huîtres crues, cuites, et on n'a pas fini.
Non, on n'a pas fini.
Avec l'équipe au grand complet de Qu'est-ce qu'on déguste pour l'occasion. Gaël, il nous reste des BD à voir autour de l'huître. Bon, Pascal.
Moi, j'ai fini. Mais
toi,
bon,
t'as fini. Mais il a déjà mangé 4 douzaines d'huîtres, donc voilà.
C'est ah, du
Christophe, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ?
On écoutera un morceau de Outcast tout à l'heure.
Du jazz encore,
moi,
genre ?
J'ai toujours un morceau, il n'y a pas de problème.
Bon, et en plus, hey, les gars, vous savez quoi ? On a du public chez Francis. Yeah ! A tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Alors, on attaque maintenant cette dernière partie d'émission avec des huîtres. Comment on
panées.
Appelle ça ? Des huîtres
panées.
Des huîtres panées. Un amphibolite muscadé nature, du pique-poule et du pique-poule de Pinet. Voilà.
On va faire un battle de vin blanc pour savoir qu'est-ce qui va le mieux avec les huîtres.
Voilà.
Le local ou l'extra-local ?
Peut-être qu'on pourrait commencer juste parce que tant que c'est chaud. Guy, si tu veux bien, par nous raconter ta recette de l'huître panée.
L'huître panée, ben on fait huître ou moule, tous les coquillages on peut faire pareil. Tu les fais d'abord cuire dans une casserole avec un petit fond d'eau. On récupère la bête cuite, et après comme une escalope de veau, farine, œuf, chapelure. Et dans une poêle avec de l'huile. Et ça, les gens les mangent à l'apéro, mais comme les cacahuètes, c'est le problème. Il en faut beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Il en faut beaucoup.
Pour un producteur, c'est très bien.
C'est pas rentable.
De faire connaître ça, pour moi, c'est très bien. Ouais, mais... Les gens, ils viennent, ils en prennent 5-6 douzaines, quoi. Que pour l'apéro.
Ça fait chaud l'apéro. Hein.
Ça, bon, ça va, les gens qui ont les moyens.
Oui, parce que. Non, mais c'est le temps que tu passes en plus, quoi. Parce que.
C'est sympa, long à faire.
Ouais, c'est long à faire.
Ouais, mais. Pendant que tu les prépares, t'as droit à boire du vin, donc ça
va. Est-ce qu'on garde les qualités organoleptiques de l'huître lorsqu'elle est cuite et panée comme ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on garde ses vitamines ? Est-ce qu'on
garde... Il a de ses questions, quand même.
Organoleptiques, les gars.
Ouais.
J'en suis pas sûr.
D'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les huîtres ?
Quels sont les bienfaits des huîtres,
oui.
Pascal ?
Ah, les bienfaits des huîtres.
Alors, une journaliste indépendante nommée Isabelle nous a fait un petit récapitulatif.
Il prend des stagiaires, lui, maintenant.
Voilà. Ouais. Je sous-traite. C'est mieux. C'est source de vitamines. Donc, dans les huîtres, on trouve du fer, du cuivre, de l'iode, du zinc, du sélénium, du manganèse, calcium, magnésium, potassium, fluor. C'est riche en protéines. C'est très riche en protéines. C'est pauvre en calories. Et les graisses, bien entendu, 70 kilocalories par 100 grammes. Donc on peut en manger, on grossit pas.
C'est parfait pour tous les régimes. Faut juste éviter le pain, le beurre.
Prenez tous les matins.
Tous les matins au petit déjeuner.
Des apports nutritifs exceptionnels, reconstituants et thérapeutiques. C'est vrai que lorsque tu as passé une nuit de beuverie,
ouais.
Le matin tu te prends 12 huîtres et là t'es reconstitué.
Ça te nettoie.
Oui, mais là, je confirme. J'en prends 12.
C'est vrai.
Et là, une bonne platée d'huîtres le matin, c'est vraiment reconstituant. C'est un truc qui te
je fais une parenthèse et je jette un pavé dans la mare dans cette parenthèse.
Un pavé dans l'étang.
Dans l'étang. Mmh. L'étang de Thaux. Il n'y a pas une raffinerie par là ?
Si, à Metz.
Ça craint pas un peu. On n'a pas l'impression d'avoir un peu des hydrocarbures qui sont filtrés par les huîtres.
Donc ça, c'est une image d'il y a 25-30 ans, on va dire. Et depuis, ça a bien évolué. Il va falloir venir faire un petit tour sur l'étang de Thaux.
Ah, c'est une invitation ?
Mais c'est déjà posé.
Quoi, c'est déjà posé ? Je suis pas au courant, j'y étais pas.
Il
n'y
a pas tout
invite.
Le monde, non, j'ai fait des choix.
C'est une invitation.
Je pouvais pas prendre tout le monde, donc il y en a qui sont passés avant toi.
Donc je suis pas là. Donc ça veut dire que...
Non, c'était il y a une vingtaine d'années, ouais. Même plus, il y a 30 ans, 40 ans, bon, mais tout le monde travaillait. Donc je parlais tout à l'heure, tout le monde s'était mis autour de la table. justement tous les gens qui travaillaient autour de l'étang ou sur l'étang, les caves coopératives, pour rejeter tous leurs produits de lavage dans l'étang. Maintenant, ils ont des bassins, toutes leurs eaux de lavage, ils les récupèrent. Ils ont des bassins de décantation, ils récupèrent les lagunages après, parce qu'au début, ils mettaient dans les lagunages et ça détruisait toutes les bactéries qu'il y avait dans les lagunages. Donc, tout le monde, il n'y a plus rien, plus personne qui jette dans l'étang, même les communes.
Plus personne ne jette dans l'étang.
Rien du tout dans l'étang.
Plus rien.
C'est un des endroits, de toute façon, une des preuves où le milieu est très sain, on retrouve de nouveau des hippocampes dans l'étang.
Ah ouais, magnifique.
Ah oui, génial.
C'est revenu.
Avec les huîtres panées, gratinées ou crues de Guy Compan, nous buvons ce soir dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez les gars, mais comme généralement cette émission est faite en direct le soir et ensuite est rediffusée le matin, on sait plus trop où on en est d'ailleurs. On boit du pique-poule, de l'amphibolite, donc c'est du muscadet, l'amphibolite nature.
Amphibolite de Jolandron.
Et du pique-poule de Pinet. Alors, ça, c'est trois vins différents. Il y a trois vins différents. Ici, le pique-poule de Pinet qu'on va trouver en cubi au supermarché. Ici, un Richemer.
C'est la cave coopérative de Marseille.
Voilà.
Et qui puis, est en Côte d'Auto. Un IGP Côte d'Auto.
Et moi, je bois du muscadet. Là.
On a pris un petit muscadet.
Un muscadet de Jolandron qui nous est offert aimablement par les magasins Biosol.
Merci Biosol. Voilà. Bon, tu vas prêcher pour ta paroisse.
J'ai pas goûté le muscadet encore. On est ouvert à tout.
Mais habituellement, qu'est-ce que tu en.
Disons, c'est facile pour nous. On a le pique-poule qui pousse en bord d'étang et t'as les huîtres juste en face. Donc.
Normalement, il faut
boire. Ça se met bien en face.
C'est mieux. C'est mieux de boire local le vin du produit du pays.
Et Guy, le pique-poule, c'est quoi comme cépage
Pique-poule, bon, il y a l'appellation pique-poule et après le cépage lui-même, c'est le pique-poule.
Ah, d'accord, c'est le cépage.
Voilà. C'est le cépage. Et c'est des graines très petites, à vendange c'est horrible, les vignes sont très basses, et pour remplir un seau à vendange,
il faut en mettre beaucoup.
Il faut plusieurs souches.
En tout cas, au fond musical, c'était le duo Outcast, il vient d'Atlanta, et c'était le morceau Happy Valentine Day.
La BD, différence de couleur énorme.
Eh oui.
Bah, en parlant de couleur, ça tombe bien. On va pouvoir parler de bande dessinée aussi, parce que les huîtres, on en parle beaucoup, mais les huîtres aussi inspirent même les dessinateurs de BD. Pour preuve, ces deux spécimens dont on va parler ce soir. La première, qui est intitulée tout simplement Les huîtres, a été réalisée par David Combet. Alors, il a 22 ans, il est de Lyon. Il est assez fan d'illustration. Alors, il fait de la bande dessinée, de l'illustration pour le particulier aussi des bandes dessinées. Il est fan de musique indépendante et de séries télé, et de nanars. C'est ce qui fait que ça nous a rapprochés un petit peu. Et justement, on va avoir un petit extrait musical qui s'appelle Les huîtres. Alors voilà, ça a été écrit par Mylan Orelsan quand même et Nick Fury, et donc ça nous a donné l'inspiration pour David Combet pour une courte BD en 6 cases dans une très jolie bichromie qui reprend à peu près la chanson. Donc je vous passe les paroles, hein, c'est pas je pense que ça aura pas le prix le prix Goncourt, mais c'est assez amusant, c'est assez frais, ça va bien avec ce qu'on boit et ce qu'on mange.
C'est frais.
Par contre, la BD est beaucoup plus intéressante. Il y a un style très comics old school qui est assez proche de ce que faisait Segar, le dessinateur de Popeye. Alors ensuite,
Segar, c'est plus fort que toi.
Ouais, mais c'est plus fort. Bah Popeye, c'est plus fort que tout le monde en même temps. Hein.
Il bouffait
des huîtres et des épinards.
Il bouffait des huîtres aussi.
Ouais, un petit peu, sûrement. Ouais. Alors après, j'ai trouvé une autre, pour le coup, perle rare, si on peut parler de ça pour les huîtres. C'est alors une façon un peu plus classique dans la construction, mais pas forcément moins déjantée. Un auteur chez Fluide Glacial, alors qu'il nous avait plutôt habitué à des récits autour de la moule, avec son malin, papy malin. Et lui, il nous livre ici un conte d'Émile et une huître. Alors, le personnage principal s'appelle Émile. Il va bouffer une...
Émile et huître.
Émile et une huître. Eh oui. Alors donc, Émile est chez lui. Il va manger une huître, mais il s'agit d'une huître un petit peu particulière et assez bavarde. Elle parle, un peu comme nous. Elle raconte à Émile... 1000 contes pour retarder son ingestion, mais Émile va pas être le seul à se laisser entraîner dans ces contes incroyables et hallucinants. Alors on va croiser une galerie de personnages assez délirants, comme les trois petits cochons, ou l'inspecteur Maigret vont le suivre. Alors Rémi va nous lire un petit peu ce qu'est l'introduction à ces fameux contes, et on va comprendre ce qu'est la spécificité un petit peu de cette huître.
Alors, il était une fois, dans son pays, dans sa cuisine, ce bon bougre d'Émile qui allait manger une huître. Miam. Et 10 de miam. Non, Émile, attends.
Est-ce que je la fais bien, la huître?
Ah oui,
c'est ça. Ah oui, moi je connais bien l'huître.
Il manque un peu un côté filtre.
Attends.
Ouais, parce que il faut filtrer.
L'huître, elle m'arfrodite.
Émile répond.
En plus, donc
tu
fais un peu transgenre.
Et Émile l'huître, c'était pas
chimique. Comme Sonny Chan, un peu transgenre.
N'oublie pas que t'es hermaphrodite.
J'ai fini mon histoire.
Non, Émile
triploïde.
Émile repart. Il regarde son huître comme ça. Il dit, tu parles ? Oui, je suis une huître parlière. C'est une espèce qui raconte donc des histoires et qu'on mange après. Ah ben ça tombe bien, j'adore les histoires et les huîtres. Mais une courte alors, hein. J'ai faim, dit Émile.
En plus.
Et l'huître commence alors. Il était une fois... Et là, j'imagine que tu déroules toutes les histoires.
Oui, ça continue. Donc bon, alors l'auteur est Hugo, donc de chez Flûte Glaciale. Donc on va retrouver un petit peu toutes ces habitudes. Il y a pas mal d'histoires, comme on a pu le voir, les trois petits cochons. Il y a l'inspecteur Maigret. Et on va aussi retrouver beaucoup de jeunes femmes à forte poitrine. Voilà, c'est très con. C'est d'Hugo. C'est chez Flûte Glaciale.
Pour parler du sexe de l'huître,
oui, est-ce qu'elle est vraiment
hermaphrodite? Ah, t'as les huîtres mâles, t'as les huîtres femelles.
Ah.
Mais la chance qu'elles ont, peut-être ça serait bien pour nous, c'est à chaque reproduction, elles changent de sexe.
Comme les escargots.
Sauf les triploïdes.
Les triploïdes, elles
alors,
se reproduisent.
Alors, on ne peut pas faire une émission dans Qu'est-ce qu'on déguste sur les huîtres sans parler des triploïdes.
Qu'est-ce que la triploïde?
Voilà.
Mais une huître qui ne se reproduit pas. Donc, ils ont rajouté un chromosome.
Donc, c'est une huître transgénique ou bien?
Modifiée.
C'est un animal vivant modifié, c'est pas un OGM, voilà, c'est pas un OGM, c'est un animal vivant modifié, un AVM.
Donc, l'avantage de la triploïde, si on en a un, c'est les gens qui vendent les huîtres l'été, donc au lieu d'être laiteuses, elles restent pleines, mais elles sont pas pleines comme une huître comme on a mangé ce soir, mais l'été elles vont pas se mettre en laitance et elles vont pas se vider, ça va rester régulier. C'est une huître d'été on va dire.
Qu'on appelle la nuit des quatre saisons.
L'été, de toute façon, on peut toujours. Après, nous, les huîtres naturelles qu'on a qui se reproduisent, on va les mettre un petit peu au soleil, on va dire. On va leur donner un choc thermique, on va les remettre dans l'eau, elles vont lâcher le lait, on va laisser 15 jours, et là, on va pouvoir les vendre sans laitance. On peut le faire naturellement. On ne les traite pas, on ne fait pas du fromage, hein, mais un choc thermique permet de lâcher le lait.
L'idée de la triploïde, c'est d'avoir ce qu'on appelle une huître des quatre saisons, c'est-à-dire une huître qui est vendable l'été, parce que l'été, il y a un afflux de touristes, que ce soit sur les côtes,
c'est
à Marennes.
C'est pas qu'il y a un afflux, c'est que la consommation
augmente.
Elle est bien meilleure. On va dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'huître laiteuse. Voilà. Et puis surtout, elle pousse beaucoup plus vite.
Voilà.
On n'a pas ce
problème-là. Deux ans ou trois ans.
On n'a pas ce problème-là chez nous. C'est bon, à un an, on a des huîtres. Mais il y a d'autres endroits où les huîtres, vous mettez 3-4 ans à produire, ça aide à avoir une production donc, un peu plus régulière.
Donc l'huître triploïde est une invention, un brevet de l'Ifremer,
oui.
Donc l'Institut français de recherche sur les produits de la mer, etc. etc. On a des mâles, on a des étalons, des étalons triploïdes, enfin non, diploïdes.
Diploïdes, oui.
Les étalons sont vendus à quelque chose comme 1000 euros pièce.
Et sont vendus
à des écloseries et ces étalons vont féconder des huîtres standards, normales, des femelles normales, et pour produire des huîtres asexuées.
Voilà, tout à fait. Stupéfiant.
Alors, on dit que ces huîtres asexuées ne sont pas capables de se reproduire. Or, on a quelques soupçons de reproduction sauvage d'huîtres issues de triploïdes.
Moi, je suis sur l'eau, sous l'eau, j'y vais pas trop.
Tu vas pas voir.
Donc, je suis pas allé voir, je peux pas me parler de ça.
Mais... Guy, c'est Francis, là, le profane. Nous,
le patron de la
avant, moi, je n'avais pas entendu parler de ces huîtres triploïdes.
Ça fait une dizaine d'années.
Ce que j'entendais parler, c'était
en eau profonde. Non, non, elles sont pas laiteuses parce que elles sont en eau profonde. Non, ça c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut rien dire. Elles se reproduisent un peu partout.
Ça, c'est le corporatisme. Ça, c'est pour vendre son huître. Qui, de temps en temps, te fait croire que ils ont une maladie, de temps en temps te fait croire que c'est en eau profonde, de temps en temps te fait croire que tout va bien.
Alors, mais c'est Guy qui m'a, c'est Rémi qui m'a répondu, mais c'est Rémi, c'est est-ce que tu es ostréoculteur?
Ostréi. Non, je blague à moitié quand même. Il s'en raconte tellement des histoires sur les huîtres, Guy Compan, que on se demande des fois si vous vous foutez pas de notre gueule, quoi. C'est, voilà, simplement.
Il faut dire la vérité maintenant ce soir.
Non, corporation, votre, voilà.
C'est l'heure.
Voilà. On n'est pas des pêcheurs, hein. Non, mais... c'est la vérité. S'il y en a pas, s'il en manque, si le prix monte, c'est qu'il y en a pas, s'il y a de la mortalité. Moi, j'ai des lots l'année dernière, encore, des lots de naissins que j'avais achetés à l'océan. C'est même pas des closeries, des lots de naissins. Donc, on achète des huîtres, j'achète 100 000 huîtres. Elles mesurent 2 mm, c'est tout petit. Donc, je les mets dans des filets pour les faire grossir. Au bout de 2 mois, j'y vais pour qu'elles soient suffisamment grosses pour pouvoir les coller. Sur les 100 000, j'en ai collé 10 000.
Donc, 10% de perte.
Voilà, t'as, non,
90% de perte. 90% de perte.
Voilà, ça va, parce que quand elles sont petites, tu les achètes pas cher. Mais si tu les achètes déjà grosses, c'est plus cher. Donc, t'as quand même, ça fait 5 ans, ça fait une quinzaine, 20 ans que j'y suis maintenant, ça fait 5 ans qu'il y a de grosses, grosses mortalités.
Est-ce que tu penses que cette mortalité, il est dit que ça vient, pour les tantôt, l'apparition des huîtres triploïdes est arrivée avec la mortalité excessive des huîtres.
Ils en parlent, bon, mais on est sûr de rien, quoi. Mais c'est sûr. Sur tous les bassins, c'est pareil.
Est-ce que tu penses que les huîtres vendues au public devraient avoir un marquage spécifique pour les huîtres triploïdes?
Je pense oui.
Savoir qu'est-ce qu'on achète?
Mais tout à fait, oui.
Est-ce que c'est du ravioli avec de la viande de cheval? Est-ce que c'est de l'huître triploïde?
Mais savoir ce que tu achètes, tout à fait, oui.
Savoir qu'est-ce que tu achètes?
Oui, mais ça,
pour les producteurs, c'est pareil, vous êtes pour une transparence vis-à-vis du consommateur?
Il y en a qui les... Moi, je vends l'hiver. Donc, l'hiver, j'ai pas besoin de triploïde. Donc, je vends de la diplo. La naturelle, on va dire.
La naturelle.
Et donc, il n'y a pas de souci. Je veux dire, Mais après, il y a des gens qui vont en vendre.
Avec Georges, nous, on la boit, la diplomatique.
Ah oui, diplomatique.
Rien à voir.
Un petit peu de jazz.
Très peu, alors. Très peu, allez,
le jazz, on va pas en parler, on va l'écouter.
Ah non, je voudrais que
c'est le nouveau slogan. Le jazz n'en parle pas, on l'écoute.
On l'écoute.
D'accord.
Bon, c'est ce que je peux faire passer, mais là, on écoute toujours Milt Buckner, qui est organiste, pianiste et vibraphoniste. Et comme je savais qu'on n'aurait pas le temps de passer 3 morceaux, j'ai trouvé un morceau, il joue du vibraphone et après il passe à l'orgue.
Oui, ben.
Mais ça dure 6 minutes.
Quel maquereau!
Et tu sais ce qu'on va faire? Parce que je trouve ça très sympa. Sur la fin de l'émission, on va pas remettre l'habillage habituel, on va rester là-dessus. Parce que ça, c'est entre la musique d'ascenseur.
Ah, mais bravo!
Et la musique d'escalator. Non, mais les jazzmen ont l'habitude dans les festivals de jouer pendant qu'on parle, donc on pourra parler. Mais pour le moment, on l'écoute.
Plus dans les clubs que dans les festivals. Dans les festivals, on écoute religieusement. Dans les clubs, on écoute en buvant.
Alors là, pour le moment, on écoute et buvant.
Donc, on boit, on trinque.
Trinquons. Attends, j'ai pas de verre.
Santé,
on n'a pas besoin de radio.
C'est trop tard. Par contre, la fin, vous donnez le numéro. À la fin, vous...
Il y a de l'ail.
T'as moins de salive. Fais voir.
Il y a de l'ail.
Le pianiste, organiste, vibraphoniste Milton Bugner. Enregistré dans les années 70 dans la maison de disques Black and Blue, qui a l'occasion d'organiser des tournées à travers la France et l'Europe, où on a eu souvent l'occasion d'écouter Mick Bugner en compagnie de Joe Jones.
On va rester là-dessus d'ailleurs pour la fin de cette émission, il nous reste quelques minutes pour finir. Guy Compan, vous êtes heureux de votre sort quand vous êtes le matin sur votre barge, que vous allez sur l'étang de Thau, que oui, peut-être le soleil se lève, je ne sais pas tellement à quelle heure vous y êtes, mais vous y êtes sans doute assez tôt.
Je pars avant que le soleil se lève.
Plutôt tôt que tard.
Plutôt tôt.
Ouais. Je pars avant que le soleil se lève et on a la chance donc de voir le soleil se lever sur 7. Ça dure pas longtemps. C'est bon. Avant, après, une fois qu'il est sorti, tu le regardes plus. Et quand le soleil se lève, tu t'arrêtes en général, ça dure 15-20 secondes, on s'arrête. Même si je suis en train de naviguer,
c'est
on
vrai.
Pose le bateau. Je regarde les jeunes qui travaillent avec moi, je dis regardez, ça on peut en profiter. Il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas ça.
C'est gratuit.
Et ça dure 15 secondes, 20 secondes, mais ça suffit d'en lancer pour la journée. Et tu repars.
T'arrêtes le moteur,
ah oui,
t'arrêtes
tu coupes,
tout ça,
tu coupes,
là, tu coupes.
Tu prends des photos avec les tables, avec les oiseaux, avec. Mais je passe pas la journée, hein. Ça dure 15 secondes, 30 secondes, mais tu les prends.
Et après ? C'est un boulot chiant, je veux dire physiquement, quoi, remonter les sacs, tout
si,
ça.
Mais... Si t'es, comme tous les métiers, agriculteur ou autre, si tu l'aimes, il est magnifique. Si non, tu l'aimes pas, il faut changer.
Si t'as des outils, non mais t'as, parce que, je veux dire, t'as beau me dire que tu mets des sacs sur le dos, t'es pas super costaud non plus, quoi.
On n'a pas fait, de bras de fer encore.
Non, non, mais t'as des gros bras.
C'est pas énorme.
Un bras de fer.
Mais je veux dire par là que,
c'est physique.
C'est physique. Quel âge tu as?
50.
50 balais, c'est, tu peux continuer physiquement de...
Je suis très content que mon fils arrive.
Ouais.
Mais bon, ouais. C'est physique, voilà. C'est
un boulot physique.
Oui, très.
Il a fait une bonne taille, il est bronzé.
Le boulot d'agriculteur, oui. Tu sais, on avait celui qui cultive à la charrue. Là.
Oui, pardon.
Il y a 15 jours, oui.
Oui, bah, il nous a dit que c'était drôlement physique. Oui. Ça, c'est un truc quand t'es derrière la charrue, derrière le cheval...
Surtout dans l'eau, tu t'enfonces vachement.
Guy,
en
plus. Juste, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on fait pour ouvrir une huître et qu'est-ce que c'est cette histoire de jeter la première eau ou pas?
L'ouvrir, bon, mais ça, c'est trop compliqué à la radio, on n'a pas les images. Et pour jeter la première eau, en fait, quand tu ouvres une huître, la première eau, il faut toujours la jeter, puisqu'en fait, c'est toute l'eau qu'elle a filtré, toutes les impuretés qu'elle a filtrées depuis qu'elle est sortie.
C'est le pipi et le caca, je ne sais pas, moi.
On peut dire ça, oui.
Et elle va en refaire, tu jettes l'eau et elle va en refaire.
La deuxième eau est meilleure, voilà.
Voilà, elle va en refaire.
La première eau, si l'huître est bien
donc
fraîche.
Il faut le faire.
Si l'huître est bien fraîche, elle refait 7 fois son eau.
Jeter 7 fois. 7 fois ?
Oui.
Et comme il faut parler, tourner 7 fois sa bouche, ouais. Sa langue.
Ça,
sa
bouche. Ce que tu fais rarement, mon cher,
ouais.
Français.
Ouais.
Et juste pour l'ouverture de l'huître, je parle sous ton couvert, Guy. Moi, je dirais que si on tient son huître dans la main gauche et le couteau dans la main droite, au moment où on plante le couteau,
on le plante dans la main gauche.
C'est la main gauche qui bouge et pas la main droite.
Il vaut mieux que ce soit l'huître qui bouge,
voilà.
Que le couteau.
On est bien d'accord. Messieurs, dames, c'était un Qu'est-ce qu'on déguste depuis chez Francis. Francis, merci.
Merci.
Je suis un amoureux conditionnel de Guy Compan et de ses huîtres.
On va y aller alors. Hein.
Francis, qui, demain matin, avant 10h, parce qu'à 10h, il n'y en aura plus.
Eh oui,
avant 10h, sera sur le marché des producteurs à Montauban, sur le stand de Guy Compan. cherchez-le, faites le tour, mais vous allez voir, il est vers le milieu, il est par là.
Il faut pas trop le dire, elles sont trop bonnes.
Avec ces huîtres qui viennent direct de Marseillan, de l'étang de Thau. Guy Compan vous attend.
Arrêtez tout, fermez l'émission. Salut, à la semaine prochaine.
Et nous, on continue.
Merci, monsieur, dame. Voilà. C'était encore hein, Qu'est-ce qu'on déguste, qu'est-ce qu'on déguste.
Ah oui.
Et dire qu'Aurélien fait la technique de cette émission. Quel courage.
C'est plus du courage, c'est de l'abnégation.